Alors, il est minuit 30 pour les amateurs de hockey. Je vous rappelle que le Canadien de Montréal a perdu hier. Honnêtement, on s'attendait à mieux face à une équipe diminuée comme les Devils du New Jersey. Alors, le Canadien a perdu 2-1. Alors, ce soir, le Canadien joue encore contre une autre bonne formation, c'est-à-dire les Red Wings de Détroit. Honnêtement, ils auraient avantage à reprendre rapidement le chemin de la victoire. Bon, nous sommes toujours en compagnie de Jean-François Gay, c'est la chronique automobile « Prendre la route ». Avant la pause, on a commencé à parler tranquillement de la Lincoln Nautilus, donc c'est un, on peut dire un gros VUS.
VUS de taille intermédiaire, genre.
Intermédiaire,
et
oui.
Puis, s'il y a des gens qui viennent juste de se joindre à nous, juste pour vous dire, le Nautilus, mais c'est l'ancien Lincoln MKX. Pour 2019, ce véhicule-là a été redessiné, il a été rebaptisé aussi, comme on disait tantôt, Nautilus. Nouvelle grille, hein, nouvelle calandre qui rappelle maintenant la nouvelle signature de Lincoln. Les jantes aussi, les jantes sont très élégantes. Aussi, je vous dirais, là, il y a des petits détails au niveau de la carrosserie, là, que beaucoup de chrome, hein. Les gens qui aiment le chrome, ils vont être servis chez Lincoln. Nouvelle motorisation, 4 cylindres, 2 litres turbo, V6, 2,7 litres turbo. Donc, si on revient à nos moutons, à l'intérieur, Jacques, la finition, ben c'est sûr que les sièges sont extrêmement confortables. Il y a 22 positions de disponibles. C'est des sièges à l'avant qui ont été, semble-t-il, selon Lincoln...
Ouais, les sièges avant, mais les sièges arrière, là, t'as mis une photo, ça, on dirait une banquette.
Oui, mais ils sont inclinables.
Ah, ils sont inclinables.
Ils sont inclinables. Ouais. Et je vous dirais, tu vois le véhicule à l'essai, c'est une espèce de cuir pâle. Le véhicule avait à peine 4000 km. Donc, soyez prudents quand vous achetez ces véhicules-là. Parce que tu vois, la force d'embarquer, débarquer avec les jeans, hein, nos pantalons, ça fait en sorte que le blanc beige, là, ça noircit avec le temps. Donc, faut être prudent. Quand on achète un véhicule avec l'intérieur pâle, c'est plus d'entretien. Puis, attendez pas là que le cuir...
Mettez du plastique dessus.
Disons que c'est un peu glissant. Avec du plastique, là, quand vous allez freiner...
Non, mais si on veut pas que ça use...
Non, je comprends. On peut mettre... Ouais. Mais il s'agit peut-être de juste les entretenir. Parce que c'est beau. C'est très beau quand c'est pâle. Hein, surtout en été, avec le toit ouvrant et tout ça.
J'ai l'impression que c'est moins chaud aussi quand on s'assoit dans le véhicule l'été.
C'est vrai, t'as raison.
Ah! Quand est-ce qu'on va avoir chaud, hein? C'est une maudite bonne question. Dis-moi donc, l'écran tactile, pas énorme, hein?
Ben, tu peux avoir 7 pouces, 8 pouces ou 12 pouces, 3. Moi, le véhicule à l'essai, j'avais le petit écran, donc j'ai pas pu expérimenter là, le grand écran. Ça va peut-être venir au cours des prochains mois. Je vous dirais aussi que la finition intérieure, c'est bien agencé. C'est typiquement Lincoln. Si on regarde avec le MKC, si on regarde aussi avec la Continental, tout ça. Ce que je déplore un peu, moi, c'est la qualité des plastiques. Si on en parle souvent, c'est des plastiques qui sont durs. J'aime ça, moi, quand c'est onctueux, velouté, tu sais, c'est doux au toucher, là. Je te dirais qu'au niveau du tableau de bord, aussi au niveau de l'intérieur des portières, c'est peut-être, pour un véhicule de 50 000 $ moi, je m'attendais peut-être que ça soit un peu plus raffiné.
C'est comme des économies de bout de chandelle.
Oui. Parce qu'on peut retrouver peut-être, des fois, on retrouve la qualité, de plus grande qualité à moindre prix ailleurs.
Bon. Alors, pour les inconditionnels de
Mais
de
c'est
Lincoln,
silencieux. C'est un vrai silencieux, Lincoln. C'est silencieux, c'est très bien insonorisé. Lincoln a mis beaucoup d'emphase sur l'épaisseur du verre des fenêtres, des vitres plutôt latérales, du pare-brise. Donc ça, c'est bien fait, ça. Ouais.
Alors, j'ai compris que tu avais parlé de 50 000 $ Ça, c'est le prix de base, j'imagine?
Ben, tu vois, je t'ai donné la liste de prix, voyons aussi.
Ben, ce que j'ai, c'est 49 450 bon, à 59 000, pas loin de 60 000.
Oui, ça, c'est ça. Selon la motorisation, puis selon la version. Par contre, au niveau des versions, là, qui sont actuellement offertes chez nous, là, il y a seulement deux versions. Vous avez la Select, et puis vous avez la version Ultra. Ultra, ben là, vous avez le choix entre le 4 cylindres turbo ou le V6 là, turbo.
Bon, parfait. Est-ce que tu veux nous parler maintenant de la version sport du Ram 1500 Sport?
Oui, ben on a parlé du Ram.
Je pensais que tu en avais parlé il n'y a pas longtemps.
Ben on a parlé, mais c'est parce que là, Chrysler a mis sur la flotte plusieurs versions du Ram. Il n'y a pas longtemps, hein, on a essayé une version, comme on pourrait la décrire comme une version hors-route, qui s'appelle la version Rebelle. Là, on a la version sport. La version sport, moi je vous dirais, c'est la version la plus polyvalente de la gamme. C'est une version aussi qui est limitée, qui n'est pas vendue aux États-Unis. C'est une version qui est exclusive au marché canadien. Cela dit, j'ai des petites statistiques intéressantes. Les ventes, on en a parlé dans le passé, mais c'est toujours intéressant de rappeler ça, ceux qui aiment les statistiques. Si on regarde toutes les ventes de Fiat Chrysler automobile au Canada, ça comprend Chrysler, Dodge, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Ram. 39% des ventes sont des pick-up Ram. Donc, c'est vraiment la vache à lait.
J'ai-tu rêvé ça? Il me semble qu'il y a une association de je sais pas quoi. Ils ont conclu que le Ram n'était pas nécessairement un véhicule très fiable.
Ben là, ça dépend du millésime. Ça dépend du millésime. Ça dépend de l'année. Ça dépend de l'année. C'est sûr qu'il y a eu une certaine époque que ces véhicules-là avaient peut-être plus de problèmes que les véhicules GM. Parce que GM, selon moi, c'est la référence au niveau de la fiabilité dans la catégorie. Sauf que là, il y a deux nouvelles générations, que ce soit Silverado ou le Sierra, avec une nouvelle transmission automatique à 10 vitesses. Donc, peut-être que ces véhicules-là vont être moins fiables que les anciennes générations. Cela dit, au niveau du RAM, ben écoutez, tout est relatif. C'est sûr que c'est pas dans les plus fiables sur le marché. Si on regarde toutes les marques et les modèles confondus, mais c'est pas non plus les moins fiables. C'est dans la moyenne.
Ben, il parlait de Volvo, il parlait de Ram, il parlait de Jaguar, il parlait également aussi du Land Rover.
C'est vrai.
C'est des véhicules, c'est quand ça brise, là, c'est... D'abord, ça peut coûter très cher aussi. Hein.
Mais si on regarde un Ram, là, si on est terre à terre, on s'entend que la plupart des gens qui vont acheter ce genre de véhicule-là, c'est pour travailler. Donc, c'est sûr que si le véhicule est soumis à l'ouvrage dur... Ben, c'est sûr que c'est un véhicule qui... C'est sûr qu'il est conçu pour ça.
En principe, ça l'a dit. Ouais. C'est fabriqué pour ça.
Oui, effectivement. Sauf que veux-tu? Mais tu sais, te dire que c'est pas un véhicule fiable, non. Je pense que c'est dans la moyenne. Mais j'en conviens que GM, sur papier, c'est des véhicules qui sont plus fiables que les Ram. Tu vois,
Que c'est une histoire qui est passée, enfin, une nouvelle qui est passée.
Mais ça passe souvent.
Sur Facebook.
Ouais, mais.
Alors, des fois, il faut en prendre, puis des fois, il faut en laisser. On se demande, des fois, qui finance ce genre d'études-là.
Ouais. Mais tu vois, on pourra en parler, tu veux. La semaine prochaine, je pourrais arriver avec des statistiques par rapport à ça. On pourrait faire un bloc là-dessus. Parce que des études qui sont sorties récemment, des études américaines, là, la fiabilité, là, des marques après 3 ans d'usure.
Mmh.
Ouais, c'est des sondages aussi qui sont remplis par des consommateurs.
Mais tu sais, hein, dans certains cas, des fois, moi j'ai eu des véhicules qui sont pas toujours recommandés,
ouais.
Comme Volkswagen, mmh. Jamais eu de problème.
Ben tu vois.
J'ai même eu une Saab. Mmh. Dieu sait que c'était pas dans les... Hein? Bon.
Ben, c'est
jamais,
ça.
Jamais eu de problème
ça
non plus.
Ça dépend
plus,
qu'est-ce que... Qu'est-ce
alors
que...
on peut tomber sur des citrons une fois de temps en temps, puis des fois on peut bien s'en tirer aussi.
Ça dépend aussi qu'est-ce que tu fais avec ton véhicule, la manière que tu conduis. Tu sais.
Bon, je fais attention.
Il y en a qui pilotent davantage qu'ils conduisent. tu vois, 90% des moteurs vendus dans un Ram, c'est le fameux V8 Hemi 5.7 litres. Fait que les gens qui pensent que le V6 diesel, qui est pas disponible pour l'instant, ou le V6 à essence 3.6 litres, dites-vous là que ça, c'est des peanuts au niveau du marché. Ce qui se vend, c'est le V8 5.7 litres. Puis, cela dit, ben, tu parles de fiabilité, ben, c'est sûr que c'est un véhicule qui a une suspension pneumatique. Donc, ces suspensions pneumatiques, c'est agréable. Tu veux, admettons, embarquer facilement dans le véhicule, tu peux descendre le véhicule très bas au ras-le-sol pour embarquer plus facilement. Tu vas dans un terrain accidenté, tu peux rehausser le véhicule, la garde au sol. On s'entend que c'est un genre de gadget. Ben, à un moment donné, ça brise. Ça coûte cher à réparer.
Mm.
Ouais. Fait que c'est ça. Mais moi, je voulais vous parler de la version sport. Je vous dirais que c'est le confort, la tenue de route de ce véhicule-là. T'as pas l'impression de conduire une camionnette ou un pick-up, là. T'as vraiment l'impression de conduire un gros VUS. Puis le son du V8, c'est quelque chose. La consommation est pas si pire. Moi, on s'entend qu'il n'a pas fait beau cette semaine. Transmission automatique à 8 rapports, le 5.7 litres. Je peux pas vous dire le rapport de pont, je ne le sais pas, mais j'ai fait du 13.5, du 14 litres au 100 km. Donc, c'est quand même intéressant.
Parfait. J'aimerais ça qu'on se garde peut-être une minute ou deux pour parler de... J'ai vu ça, la chronique juridique de ton confrère.
Oui.
Maître Lamontagne de contraventionexpert.ca. Vous êtes sur le site Internet du Guide de l'auto et je pense que de ce temps-là, ben, c'est probablement très apprécié par plusieurs personnes parce que vous nous parlez des nids de poules, puis vous avez posé la question, peut-on se faire rembourser par une ville pour les dommages subis? Peut-être pas une mauvaise idée d'aller voir ça parce que les nids de poules se développent à une vitesse exponentielle.
Oui, mais vous savez que les nids, c'est pas facile, hein? Parce que si, admettons, là, vous endommagez, on peut pas réclamer là l'ensemble là, au niveau des réclamations. Là, tu me prends un peu brûle, tu me prends un peu les culottes à terre, comme on dit.
J'oserais pas.
Mais cela dit, je vous dirais, moi, quand vous avez un bris avec votre véhicule au niveau d'un nid de poule, c'est important de prendre des photos. Prenez des photos de la profondeur du trou. Prenez l'emplacement, faites un croquis, puis vous avez aussi là 10 jours à 15 jours, il me semble que c'est 10 jours, là, pour envoyer une mise en demeure à la ville, ou bien encore au ministère des Transports.
Mais regarde, ça peut t'aider, là, en vertu de l'article 604.1 de la loi sur les cités et villes, la municipalité n'est pas responsable des dommages causés par l'état de la chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou au système de suspension d'un véhicule. Votre seul recours contre une municipalité serait en cas d'imprudence ou de négligence grossière de la part de la ville.
Ben c'est ça. Ben
c'est ça qu'il faut se battre en maudit.
Ben faut se battre, mais vous savez, c'est sûr que s'il y a des cônes ronds, oranges, qui vous avertissent qu'il y a un trou, ben là, ça va être difficile. Mais on s'entend qu'il y a des endroits qui ont des trous assez profonds.
Impressionnant, oui.
Assez impressionnant. Vous avez un recours. Mais l'important, c'est de respecter les délais. Et quand vous vous présentez à la ville aussi, là, tu sais, parce que là, on va parler politique.
Puis on pourra
revenir. Non, mais sais-tu pourquoi que les villes se sont faites. Comment se fait que la loi a été modifiée au niveau de leur responsabilité? C'est quand le gouvernement provincial a pelleté beaucoup de taxes dans les cours des villes, ben là, ça s'est négocié, ça, au niveau de la responsabilité. Parce qu'il faut il y a quelques années, c'était plus facile.
On va faire une pause.
On
fera
un bloc aussi là-dessus, là.
On va faire
parce
une pause.
Parce que ça peut durer 5 minutes, là, mais on va donner des bons conseils là-dessus.
Parfait, excellent. Alors, il est presque 00:43. Si vous avez envie de jaser aussi avec Jean-François, n'hésitez pas à nous téléphoner. On vous donne dans quelques secondes les numéros de téléphone à composer.